Merveilleuses histoires de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 105, au cœur de Montréal.
Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
CIBL 105, Montréal. Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Au coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent, dans les magnifiques studios, Sophia Zito avec vous pour la prochaine heure. Comme chaque semaine, on va à la rencontre de personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès. Mon invité cette semaine nous est référé par le Centre Dobson de l'entrepreneuriat de l'Université McGill, qui est un partenaire de contenu officiel de notre émission. Intention Inc. est également disponible pour la réécoute sur les divers supports balado sur notre site intentioninc.ca. Stéphanie Beaulieu, notre invitée. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Est avocate en droit des affaires. Elle a également travaillé dans le secteur de la mode en tant que mannequin pendant une dizaine d'années, puis ça l'a même amenée à vivre à Milan au début de sa carrière en mannequinat. En 2022, Stéphanie devient la première étudiante de McGill à obtenir un MBA avec la spécialisation en commerce de détail. La même année, elle décroche un certificat en mode durable de la réputée École Parsons à New York. Puis en novembre 2022, année très occupée pour Stéphanie, elle lance officiellement son projet entrepreneurial Ecova. Ecova souhaite apporter plus de durabilité à l'industrie de la mode et éveiller la conscience des consommateurs. La jeune pousse offre des accessoires en cachemire recyclé et des T-shirts éco-responsables. Ecova s'est mérité la première place de la Coupe Dobson 2023 et a reçu une mention d'honneur des Webby Awards pour son site web aux côtés de joueurs importants comme le magazine InStyle, Birdie and the Zoe. Stéphanie Beaulieu, bienvenue à Intention Inc.
Merci beaucoup. Merci pour l'introduction.
Écoute, c'est le fun. Je regarde ton T-shirt, il est super beau. Tu vas pouvoir en parler de Ecova. Comment tu as fait pour jongler des études en droit et en plus de travailler comme mannequin? C'est déjà des choses qu'on habituellement on voit pas ensemble. Mm-hmm. Peut-être pas nécessairement compatible, mais tu le fais fonctionner.
Absolument. C'est vrai que souvent, c'est des choses qu'on voit pas ensemble. Ça fonctionnait parce que c'est sûr qu'il y a certains castings auxquels je devais dire non. Je pouvais pas me présenter parce que j'avais des cours, d'autres auxquels je pouvais dire oui. Ou sinon, il y avait des contrats qui se faisaient directement où j'allais manquer un cours, demander des notes à un collègue de classe ou tout simplement, il y avait pas de cours cette journée-là. Donc, c'était un bon moment. Et sinon, c'est sûr qu'il y a eu aussi une session où j'ai été à Milan et là, j'ai discuté en fait avec la responsable à l'université pour qu'elle me permette en fait de sauter une session et de reprendre le parcours avec les autres à mon retour.
C'est difficile de dire non à une offre comme aller travailler quelques mois à Milan.
C'est ça. Je me suis dit, je vais le regretter. Si je ne l'ai pas fait là, à 80 ans sur ma chaise berçante, je vais me dire j'aurais dû le faire.
C'est certain.
Je me suis dit je vais le faire. En fait, mon père, à ce moment-là, avait très peur que je ne revienne pas. J'avais fait un an en droit à partir de ce point-là. Et là, je me rappelle qu'il construisait une maison, parce qu'il est entrepreneur général, c'est un entrepreneur lui aussi, et il construisait une maison où on allait habiter, et les murs n'étaient pas du tout faits encore. Il n'y avait pas de peinture, et il a écrit sur le mur « Je reviens, je reviens à tel mois, dans tant de mois ». Et là, il a dit « signe ici
». Bon, déjà, l'avocate en toi s'est engagée à revenir.
C'est ça, je me suis engagée à revenir. Il voulait s'assurer que, ben oui, ils me permettent de vivre cette expérience-là, mais quand même que ça...
Tu allais poursuivre tes études
en
droit.
J'allais poursuivre mes études en droit.
OK, mais là, j'ai plusieurs questions, mais on va continuer sur Milan. On va revenir voir si tu as toujours voulu être avocate aussi après. Mais qu'est-ce que tu as retiré de ton expérience quand tu es allée travailler à Milan?
J'ai énormément retiré de mon expérience. Il faut avouer qu'au début, j'avais peur que ce soit... On m'a dit que j'allais habiter avec 7 autres filles.
Oh.
Et ça, c'était... En fait, c'était dans un appartement qu'on appelait les Fashion Flats. Donc, on était dans un des Fashion Flats. Il y en avait plusieurs autres. Et dans chaque petit appartement, il y avait 7 filles.
C'est de la cohabitation à l'extrême, ça.
Absolument. Et là, je voyais ça dans les émissions comme America's Next Top Model. Je me suis dit, mon Dieu, il va y avoir des chicanes. J'aime vraiment pas ça. Moi, j'étais super gênée. Puis là, je suis arrivée avec ma valise au milieu de la nuit. On m'a donné la clé. Et là, je suis arrivée dans ma chambre. Je me suis dit, je vais faire le moins de bruit possible parce que je veux vraiment pas me faire d'ennemis. Là, je partageais ma chambre avec une autre personne. Donc, on avait des lits simples. Et je voyais que cette personne-là dormait. Et là, je me suis dit, je vais faire le moins de bruit possible. Je vais farfouiller dans ma valise pour trouver mon pyjama avec ma lumière de téléphone. Et j'ai juste vu sa main vraiment sortir des couvertes, ouvrir la lumière de la chambre, puis me dire avec un accent serbe, en fait. Puis elle a dit, it's easier with the light open. Puis là, j'ai dit, ah, j'ai dit, désolée. Puis là, j'ai dit, ah, bonjour, mon nom, c'est Stéphanie. Puis elle dit, on va se parler demain. Là, j'ai dit, parfait.
Et puis, est-ce que cette amie est devenue une amie?
C'est encore une amie à ce jour. Je l'ai visitée plusieurs fois et ensuite, elle est partie un peu plus tôt parce que son visa a expiré. Et j'ai eu une autre amie qui, elle, venait des États-Unis et je l'ai vue à 5 reprises par la suite. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont restées des amies pour moi encore à ce jour. Okay. On a vécu des super belles expériences ensemble puis il n'y a même pas eu une seule chicane.
Ça ne fait pas de la bonne télé-réalité. Là.
Ça ne ferait pas de la bonne télé-réalité. J'ai beaucoup aimé apprendre de ces filles-là puis je trouve que c'est des personnes exceptionnelle.
Bon, bien, si elles écoutent, on les salue.
Absolument.
Là, revenons après ça, ton droit. Donc,
oui.
Tu as tenu ta promesse à ton père, tu es revenu. Est-ce que le droit, c'était toujours inscrit? C'est le genre de profession qu'on a toujours rêvé de faire ou il y en a des fois, c'est des décisions de dernière minute. Pour toi, c'était quoi?
J'ai toujours rêvé de le faire depuis que j'ai vu le film I Am Sam. En fait, j'ai vu l'avocate. Moi, c'est mon film préféré. Et là, je me suis dit, je veux être avocate.
Mais pour les gens, là, rappelle-nous, parce que I Am Sam, c'est comme de l'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas, dans les débuts, non?
Non, en fait,
bon,
c'est vraiment...
c'est pour ça qu'il faut rappeler, c'est quoi le film?
En fait, c'est un père qui a une condition mentale qui fait en sorte que... qu'il pense toujours comme un enfant de 7 ans. Et là, la cour remet un peu en question son habileté à prendre soin de sa fille qui commence à grandir.
C'était touchant. C'était un bon papa malgré
son handicap
intellectuel.
Exactement. Et puis là, il y a une avocate qui va rentrer là-dedans pour le défendre. Elle fait du pro bono avec sa cause. Puis je la trouvais vraiment inspirante. Et là, c'est là que j'ai décidé de devenir avocate. Et j'ai toujours trouvé, et je trouve encore que c'est une profession exceptionnelle. Et je suis avocate en droit des affaires. Je le suis encore, même si je pratique presque plus depuis que j'ai commencé ECOVA. Mais là, ça va faire bientôt 7 ans que je suis avocate.
Donc, ça reste... OK, ça a été comme une vocation. Tu as toujours voulu faire ça.
J'ai toujours voulu faire ça, mais je voulais faire plus. Mais j'adore être avocate. Je trouve que c'est une très belle profession puis je trouve que c'est tellement beau de pouvoir accompagner des clients au niveau de leurs affaires, les accompagner au niveau légal. Et tout ça est parti, en fait, quand j'ai décroché un stage qui, à ce moment-là, était dans la plus grande firme de droit au monde. Donc là, c'était un niveau beaucoup plus macro et c'était des avocats de grandes compagnies qui allaient nous dire exactement quels documents rédiger, par exemple. Des fois, il y avait du pro bono avec des clients un peu plus petits. Mais quand j'ai décidé de faire mon MBA à temps partiel, j'ai rejoint un cabinet boutique dans le Vieux-Montréal qui s'appelle Noa Avocat. Et là, j'avais accès vraiment à des PME, puis vraiment aux entrepreneurs directement. Et j'ai eu le privilège de les accompagner directement au niveau légal dans leur diverses considérations. Celui qui avait le bureau, en fait, était également un entrepreneur sur le côté. Donc là, j'ai été vraiment plus exposée à ça, puis ça me donnait très envie. Je savais déjà que je voulais partir en entreprise, mais ça me donnait encore plus envie d'être de leur côté. De dire, je les accompagne du côté légal, mais là, j'ai envie, moi aussi, de faire ce que je veux faire.
Donc, ma question, tu avais déjà une intention d'entrepreneur. C'était déjà quelque chose que tu considérais. Comment s'est manifestée ton intention pour ECOVA?
Je dirais que j'ai toujours eu un peu le sens entrepreneurial. Donc, je viens d'une famille où mon père est entrepreneur. Son père est entrepreneur. Et là, du côté de ma mère est médecin. Ses deux parents étaient psychologues. Mon frère est médecin. Donc, je suis vraiment...
Fallait que tu prennes le côté de papa, là.
Bien, j'ai pris les deux côtés. Bien, je suis professionnelle dans le parle-bien où je suis avocate, mais j'ai toujours eu ce sens entrepreneurial-là que mon père m'a clairement donné. Et puis, j'ai toujours voulu partir d'entreprise. Puis, je pense pas que le fait d'être avocate faisait en sorte que je pouvais pas le faire non plus.
En fait, ça te donne des bons outils, surtout au droit des affaires.
Ça donne des bons outils, absolument, exactement. Puis, j'ai vu beaucoup de clients en droit des affaires et j'ai pu les accompagner dans plusieurs considérations. Donc, ça m'a donné beaucoup d'expérience.
Tu savais comment rédiger ta convention au départ, c'est pas problème
absolument,
avec ça.
Ouais.
Donc, c'est là que l'intention... Mais comment s'est manifesté... Donc, tu voulais devenir entrepreneur, mais avec le projet spécifique de Ecova. Mm-hmm. Quand est-ce que ça a commencé à te parler puis t'as dit, OK, c'est ce genre d'entreprise-là que je veux partir?
Oui. Bien, j'ai toujours su que je voulais avoir une entreprise, bâtir une entreprise. Et ça a toujours été pour moi vraiment clair que je voulais que ce soit de A à Z. Donc, je voulais pas... rentrer dans une entreprise et la flipper, comme on dit. Je voulais vraiment tout faire de A à Z pour que ce soit vraiment la vision que j'avais en tête. Et puis, en fait, je voulais que ce soit dans le monde de la mode parce que je trouve que c'est une industrie qui est extrêmement nuisible pour l'environnement. Les gens le savent pas tout le temps. Je l'ai remarqué aussi, notamment quand j'étais à Milan. Je trouve que quand on est mannequin, à part pour certains grands mannequins qui ont des rôles plus activistes ou qui sont des grands modèles ou qui font autre chose, oui, on est des acteurs dans l'industrie de la mode, mais on a aussi un rôle d'observateur, je trouve. Et on observe beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'environnement, le côté environnemental de la mode. Et c'est là que j'ai voulu partir une entreprise qui allait faire une différence, qui allait changer quelque chose que j'aimais pas dans cette industrie-là. Et j'arrivais pas nécessairement à mettre le doigt dessus exactement. Et en fait, au tout départ, je voulais partir une entreprise qui allait créer un tissu qui était bon pour l'environnement.
C'est intéressant.
Donc, ouais, c'est ça que je voulais faire au début.
Et comment tu t'es rendu compte que la mode, c'était polluant? Comme nous, on a reçu Annie de Tenjiva, Annie, qui justement œuvre dans le même sens. Mm-hmm. En identifiant la provenance des tissus pour pouvoir faire des choix qui sont plus écologiques, parce que justement, c'est une industrie, en fait, qui est très polluante, malheureusement. Donc, toi, quand est-ce que tu as pris conscience que l'industrie dans laquelle tu étais observatrice puis un petit peu participante en tant que mannequin, tu t'es dit, ouh, peut-être qu'on peut faire les choses autrement parce que ça a un impact important, une empreinte environnementale importante?
Absolument. J'ai remarqué ça notamment à Milan, en fait, parce que il y avait un client qui était récurrent et là, on pouvait faire des photos d'une collection. Et puis, à ce moment-là, les collections avaient vraiment des éléments très flashy, là. Donc, c'est des collections qui sont difficiles de garder à travers le temps parce que c'est pas intemporel, c'est pas...
côté ludique et très...
C'est ça, à ce moment-là, tous les mannequins à Milan se promenaient avec, je me rappelle, c'est des espèces de petits chapeaux noirs avec des oreilles, des petites oreilles de chat, là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut remettre l'année d'après, puis ça passe encore, là. Donc, c'est quand même difficile.
C'est ça.
Ouais, ça fait un peu... Puis là, je voyais qu'on allait faire une séance photo pour cette collection-là. Et le mois d'après, il y avait une autre collection avec des morceaux complètement différents. Puis l'autre collection était presque plus sur leur site. Puis je me disais, mon Dieu, mais pour les consommateurs, pour continuer à rester à l'affût des dernières tendances, ceux qui veulent vraiment, là, il faut qu'ils achètent continuellement, qu'ils jettent ce qu'ils avaient du dernier mois ou qu'ils s'en débarrassent d'une autre façon. Puis je trouvais ça très dommage. Puis c'est là que j'ai vu, ça n'a pas de bon sens. C'est plus rendu même... des fois, on dit la saison... printemps-été, la saison automne-hiver, là, c'était plus rendu vraiment ces quatre saisons-là. Même avec certaines grandes marques en mode, c'est rendu 52 saisons par année.
C'est tellement éphémère.
C'est très éphémère.
Donc, ce côté-là t'a dérangé.
La surproduction, la surconsommation.
Définitivement. Même le fast fashion, qui est une autre tendance aussi qu'on doit... le site là, chinois que je nommerai pas avec les gens disent « Ah, j'ai pu acheter un morceau à 7 $ Oui, mais ça vient avec...
Avec un coût pour
avec
les
un
personnes
pour comment ça a été
et
fabriqué.
Pour l'environnement.
Exactement. Donc là, à partir de là, tu commences à voir comme il y a quelque chose qui te dérange, mais suffisamment pour dire « Je peux faire partie de la solution, je vais partir une entreprise » ou il y a eu d'autres étapes avant?
Il y a eu d'autres étapes. Il y a eu des étapes où j'essayais de trouver quel rôle je pouvais avoir là-dedans. Et puis là, je me suis dit « Ah, peut-être que si je... j'arrivais à créer un tissu qui était bon pour l'environnement, qui est bon pour l'environnement, ça pourrait être une solution. Mais évidemment, là, il faut que je m'entoure de gens qui sont experts dans le domaine, parce que moi, je viens du domaine du droit, donc il faut que je trouve des ingénieurs, il faut que je trouve des experts en textile, il faut que... Et là, donc, je me retrouve à aller à la convention Biofabricate à New York l'an dernier. Et là, c'est là que je me rends compte, mon Dieu, bien, il y a déjà des gens experts dans le domaine qui travaillent sur des solutions depuis 10 ans. Les solutions sont déjà là. C'est des solutions qui sont à couper le souffle, notamment...
On entend ça.
Oui, absolument. Là, notamment, il y a des compagnies qui ont réussi à modifier l'ADN de cellules et de leur fournir tous les aliments qui n'ont pas été consommés et qui sont passés date. Donc, de nourrir ces cellules-là de ces aliments-là pour que ces cellules créent des textiles qui sont par la suite compostables. Donc, tu sais, c'était comme...
J'adore.
C'était vraiment à couper le souffle. Et là, moi, j'étais là avec l'intention de rencontrer des gens, de peut-être de pouvoir recruter des ingénieurs. Et je me suis dit, mais les solutions sont déjà là. Et puis, même si j'arrive à recruter des gens, à faire des recherches, à faire la recherche et développement pendant des années, on va arriver à ce qui sont déjà arrivés. Et c'est pas là que je vais vraiment être capable d'apporter une solution. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'ils avaient beaucoup de difficultés avec la mise en marché. Il y avait beaucoup de difficultés avec la mise en marché parce que les marques doivent payer plus pour ces tissus-là qui sont plus rares, qui sont plus dispendieux. Et ça fait en sorte qu'ils sont moins intéressés, effectivement, à le faire. Et,
il y a un blocus à l'entrée à cause de ça.
Exactement. Ça diminue leur marge de profit. Les consommateurs ne le demandent pas clairement.
Ils ne le savent pas.
C'est ça, ils ne le savent pas. Il y a beaucoup d'éco-blanchiment. Donc, je me suis dit, mais c'est peut-être là que je voudrais faire la différence. C'est peut-être au niveau des consommateurs pour faire en sorte que les consommateurs commencent vraiment à demander ce changement-là d'une façon claire.
OK. Fait que là, c'est là que le projet entrepreneurial commence à s'exprimer. Tu veux agir au niveau du consommateur qui, lui, t'élève sa conscience pour que lui puisse dicter les choix puis prendre les décisions.
Exactement, parce que les marques ne vont pas du tout changer leur façon de faire, vont vouloir garder leur marge de profit actuelle. Le statu quo leur est bénéfique. Donc, pour qu'ils changent réellement, pour que ces marques-là changent réellement de façon de faire, puis changent de textile qu'ils utilisent et changent la façon dont ils traitent les gens dans leur chaîne d'approvisionnement, il faut que la demande claire vienne des consommateurs. Et c'est dommage parce que ça devient leur responsabilité, même si ce n'est pas nécessairement de leur faute. Donc.
Alors, là, à ce moment-là, tu sais qu'est-ce que tu vas faire, comment ça s'exprime. Là, tu peux nous expliquer c'est quoi Ecova.
Oui, absolument. Donc, Ecova, en fait, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec ça, c'est de fournir une expérience aux consommateurs. Donc, qu'ils puissent voir des vidéos, des produits qu'ils achètent, des courts vidéos de 5 minutes où ils voient comment les gens dans la chaîne de production ont été traités, quels textiles ont été utilisés, comment ça a été fait exactement, pourquoi c'est bon pour l'environnement. Donc, de vraiment répondre à des questions qui ne se posaient pas nécessairement, de développer aussi un sentiment de connexion plus élevé par rapport aux produits qu'ils achètent. Donc, de se dire, OK, ça, c'est pas quelque chose que je veux jeter dans 2 ans. Là. C'est quelque chose que je me rappelle qui l'a fait, je me rappelle comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait. Je veux le garder plus longtemps, je veux en prendre soin. Et puis, c'est vraiment de leur donner ça, une expérience. C'est le mot que je donnerais à Ecova. Et de faire en sorte qu'ils commencent à se poser des questions qu'ils ne se posaient pas avant. Donc, quand ils vont magasiner ailleurs, qu'ils se disent « Ah, je me demande si ce produit-là... »
Qui
l'a fabriqué? Est-ce que les gens dans la chaîne de production ont été bien traités? Je vais regarder le tissu, dans le fond. Maintenant, je me demande, c'est fait de quel tissu? Je ne me demandais pas ça avant. Donc, vraiment, juste qu'ils développent des réflexes pour qu'ils soient plus armés pour faire face à l'éco-blanchiment qui est plus présent que jamais.
Oui. Mais en fait, ce que tu racontes, ça devrait s'appliquer à notre nourriture, ça devrait s'appliquer à peu près à tout ce qu'on consomme et qu'on achète.
Absolument.
Et si on le savait plus, on posait plus de questions, on penserait 2 fois avant de faire certains choix de consommation.
Absolument, surtout que les consommateurs veulent faire mieux. Donc, j'ai vu, et ça m'a vraiment touchée, c'est un rapport qui s'appelle, qui a été rédigé en anglais, donc c'est le Global Sustainability Study, donc c'est le rapport mondial sur la durabilité qui a été fait par la firme Kutcher & Associés et qui a démontré que 60% des consommateurs pensent à la durabilité quand ils achètent leurs produits et 33% d'entre eux sont prêts à payer plus pour des produits qui sont meilleurs pour l'environnement. Donc, ça en dit quand même très long. Les consommateurs sont là, ils veulent faire mieux et le seul blocage, en fait, ben, c'est l'éco-blanchiment puis le manque d'offres.
Et parle-moi de l'éco-blanchiment. Là, t'en parles, on le sait, t'sais, on le sait probablement, mais pour toi, qu'est-ce que tu entends par éco-blanchiment?
C'est
comme
quand...
surtout dans l'industrie de la mode, là, particulièrement. Là.
Donc, c'est quand une marque de mode va faire des représentations, ça peut même être des fois des omissions, qui vont faire comprendre aux consommateurs que qu'est-ce qu'ils achètent est bon pour l'environnement quand ce n'est pas réellement le cas. Et ça, ça peut me faire penser, par exemple, à une grande marque de mode que je ne vais pas nommer non plus, qui a lancé une collection qui Je vais pas dire le mot en anglais parce que ça va être trop évident, mais qui a lancé une collection qui était durable l'an dernier. Et là, disait que les morceaux étaient faits avec des textiles qui étaient durables. Et là, tout le monde était content. Bon, cette marque-là, finalement, fait quelque chose de mieux pour l'environnement. Finalement, on va supporter tout ça. Et effectivement, c'était pas le cas. Et il a été découvert, en fait, que seulement un très faible pourcentage de chacun de ces vêtements-là était recyclé. Donc, par exemple, un vêtement qui était fait de textile durable, on pouvait voir qu'il y avait peut-être 2 % de ces t-shirts-là qui avaient été recyclés, puis le reste, bien, c'était du polyester, et le polyester, c'est du plastique. Donc, c'est comme... La phrase en tant que telle n'était pas un mensonge, mais c'était
On joue sur les mots.
On jouait beaucoup sur les mots, puis... Donc, c'est pour ça que vraiment de toujours regarder les étiquettes de fabrication, les étiquettes qui montrent la composition des textiles. Il y a des règlements qui entourent ça, il y a des lois. Les compagnies ne peuvent pas mentir à ce niveau-là, là, elles n'ont pas le choix.
L'étiquette
donc,
va dire la vérité.
L'étiquette c'est notre... en magazine, regarder l'étiquette, puis aussi bien, de s'informer plus sur le genre de tissu. Donc, j'ai fait un quiz sur la mode durable dans les rues de Montréal l'an dernier. Oh. Puis là, je demandais à des gens des questions, et puis là, dans ces questions-là, j'ai...
Pose-nous une question.
Je demandais de quoi est fait le polyester.
Mais là, tu me l'as dit tantôt,
mais c'est
la plastique.
Ça, c'est ça, c'était le plastique. Savait, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment surpris.
Et mais c'est vrai qu'on n'y pense pas d'emblée.
Il y a pas beaucoup de gens qui le savent. Il y a quelqu'un qui a dit, ah, ben, c'est sûrement une fibre. Puis là, donc, c'est ça, il faut que plus les gens vont...
Il y a un rôle d'éducation à faire pour que le consommateur fasse les bons choix.
Absolument, puis je veux que ce soit autant que possible éco-vert, quelque chose qui est très doux, qui est amusant, parce que je trouve que les consommateurs, c'est des gens qui sont excessivement occupés dans leur vie, qui ne veulent pas être pointés du doigt, qui ne veulent pas être stressés. C'est sûr que l'environnement, ça vient avec un certain sentiment d'anxiété pour certains aussi.
Oui.
Donc, d'avoir une compagnie qui pointe du doigt, qui arrive sans solution...
Ça aidera pas à faire des changements.
Qui donne beaucoup d'anxiété, bien, les gens vont vouloir dire, OK, j'ai ma vie en ce moment, là, j'ai des gens de qui il faut que je m'occupe, j'ai plein d'autres considérations. Moi, je ne veux pas entendre ça en ce moment, je vais continuer à faire mes affaires. Mais si, au contraire, il y a une entreprise qui offre une expérience immersive, puis qui apprend doucement, qui offre aussi des solutions. Mais je me dis qu'à ce moment-là, peut-être que ça peut faire des petits changements plus
toujours
amusants,
plus, facile.
Plus
ouais.
doux.
Ouais. Plus de chances d'aller chercher plus de gens et qui vont rester avec la décision de le faire. C'est pas avec la coercion, ça, c'est certain.
C'est ça.
Donc là, toi, tu utilises, comme on dit en anglais, le storytelling, où on raconte une histoire.
Oui.
Raconte-moi l'histoire de ton T-shirt que tu portes en ce moment.
Donc, l'histoire du T-shirt que je porte en ce moment, en fait, quand j'ai suivi des cours à l'école de Parsons, on a été un des invités.
Je t'interromps. T'étais bien partie.
Oui.
Moi, les gens ne connaissent peut-être pas tous l'école de Parsons à New York. Juste nous mettre en...
Une école très réputée en mode à New York, c'est ça. Et en design, exact, aussi, là. Et puis, en fait, on nous a présenté le fondateur de Shadi Collective. Son nom, c'est Nishant Chopra. Et puis, il est venu nous donner un cours pour nous expliquer qu'est-ce qu'il faisait, lui, en Inde, chez Shadi Collective. Et il nous a parlé de l'agriculture régénérative. Il nous a également parlé de comment il traitait les gens dans sa chaîne d'approvisionnement. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de transparence. J'ai trouvé ça extrêmement impressionnant. Et puis là, quand j'avais commencé Ecova, ça faisait quelques mois.
À ce moment-là, tu avais déjà commencé Ecova.
J'avais déjà commencé Ecova, mais j'avais fait, bon, pour une meilleure ligne du temps, j'ai fait ce cours-là. Quand je l'ai terminé, j'ai commencé Ecova. Et une fois que la première collection a été lancée, j'ai repensé à ce cours-là. Et là, okay. j'ai demandé à mon professeur, est-ce que vous pourriez mettre en contact avec le fondateur? Et là, quand on est des petites entreprises, c'est toujours plus difficile côté manufacturier. Il faut toujours se prouver pour dire, oui, ça vaut la peine. Le premier, c'est plus difficile, mais là, au moins, c'était le deuxième. C'était plus facile. Mais il a accepté de me rencontrer. Il a accepté de faire affaire avec Ecova. Puis, faire affaire avec Ecova, c'est pas non plus nécessairement le... la tâche la plus simple pour un manufacturier parce que je demande toujours à ce qu'on vienne et à ce qu'on filme le processus et à ce qu'on raconte l'histoire au complet. Donc, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Et il faut déjà, à la base, faire preuve d'une très grande transparence.
J'allais le dire, faut pas avoir rien à cacher.
Faut pas avoir rien à cacher. Et lui, il n'avait rien à cacher. Donc, il a dit oui, pas de problème. Donc, l'histoire derrière ce chandail-là, en fait, c'est le chandail du badge d'honneur. Ça a été fait... en fait, qu'est-ce qu'ils pratiquent là-bas? C'est l'agriculture, ce qu'on appelle le seed-to-sow supply chain. Donc, ils font... pousser leur propre coton organique d'une façon régénérative. Et ensuite, ils font aussi leurs propres vêtements dans le même secteur.
Donc, ça ne voyage pas.
Ça ne voyage pas trop. C'est ça, des fois, on ne peut pas imaginer combien de pays une pièce de vêtement a fait avant de se retrouver dans nos mains. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'est qu'on a raconté l'histoire de trois acteurs dans cette chaîne d'approvisionnement-là. Et c'était Sarah Swati, qui était en agriculture, Asha, qui était dans la découpe des tissus, et Panchanan, qui était dans le montage du chandail. On a aussi eu le fondateur qui nous a expliqué vraiment la philosophie derrière Oshadi et pourquoi les gens étaient bien traités dans la chaîne d'approvisionnement. Et ce que j'avais beaucoup aimé d'Oshadi, c'est que quelques mois avant que j'aille en Inde pour les rencontrer, c'est qu'ils avaient mis en ligne le salaire de chaque employé dans la manufacture à côté de leur nom.
Excellent.
Ça, parce que j'étais ça, comme moi. Ouais. Quelle transparence.
Ils sont souvent sous-payés dans le secteur
manufacturier. Absolument, absolument. Puis là, c'était pas encore... ils étaient comme à 80 % ou à 85 % pour que, selon en fait, ce qu'on appelle le Global Living Wage Coalition, donc la coalition globale sur les salaires décents, ils étaient comme à quelques employés près, mais est-ce que tous les employés avaient comme un salaire de départ? Et là, en fait, moi, c'était vraiment ma condition. Avant que j'aille, j'ai demandé, est-ce que là, tout le monde est rendu à 100 %? Il a dit oui, et on a signé là-dessus. Et là, je suis allée, et je trouve qu'il est extrêmement transparent, et je voulais vraiment encourager ça, parce qu'en Inde, c'est un endroit où les gens sont souvent moins bien traités, puis on ne peut pas imaginer à quel point ils sont moins bien traités. Là, ça, c'est comme il y a des gens qui vont... aller dans des manufactures où ils ne peuvent pas se permettre de vivre proche des manufactures parce que le loyer est très, très élevé. Donc, ils vont quitter leur famille, déménager là, soit dormir dans la manufacture ou partager des chambres avec des collègues avec qui ils peuvent se louer un appartement. Ils vont dormir sur des matelas, sur le sol. Des fois, ils ne vont pas avoir le temps de manger ou de se laver. Ça va être des heures à non plus finir.
Alors, je pense qu'on... c'est
on
ça.
Va pas prendre leur on va prendre leur passeport. Il faut qu'ils finissent. C'est terrible. Donc, et là, j'ai vraiment vu que... Et des fois, on retrouve certaines de ces conditions-là en Inde. Donc, je voulais vraiment aller là-bas pour encourager quelqu'un qui fait quelque chose de différent dans un pays où c'est plus rare. Et l'histoire du chandail du badge d'honneur, en fait, est disponible sur Ecova. C'est possible de le voir. Et le truc, c'est qu'on voit aussi le nom des artisans sur la manche gauche de chaque chandail. Donc, c'est non seulement la personne qui le porte peut savoir qui a fait ses vêtements, a vu le vidéo, mais peut aussi le porter fièrement comme un badge d'honneur. Et l'autre raison aussi pourquoi on a décidé de mettre leur nom sur le chandail, c'est parce qu'il y a l'organisme Fashion Revolution qui est parti à travers sa campagne Good Clothes, Fair Pay, donc des bons vêtements bien payés. La question « Who made my clothes? » Donc, qui a fait mes vêtements? Et je trouvais que c'était une façon quand même intéressante de répondre.
OK, on est en train d'assister à une petite révolution. On continue à s'en parler. J'adore le chandail badge d'honneur.
Merci. Mais là, on ne voit pas la manche, mais je vais vous la montrer tantôt.
On la mettra sur notre site. On revient tout de suite.
Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite cultureetmoi.ca. Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoun. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
Il y a une maudite.
Tu viens-tu te foncer dans le porte-patio où il était?
Ben non.
Voyons, je t'ai vu.
C'est mon émission, vous commencez.
Voyons donc, Gaëtan, c'est un annonce, c'est le mercredi. Ben...
Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
CIBL 101.5, Montréal.
Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. en compagnie de Stéphanie Beaulieu, la fondatrice et PDG de Ecova, fabricant et boutique de mode éthique intemporelle. Et justement, juste avant qu'on prenne une petite pause, tu nous parlais de l'histoire de ton T-shirt Badge d'honneur et qui, on a vu sur la manche, tu as les noms de... C'est ça, tu as les noms des trois personnes que vous avez décidé de mettre en lumière, comme pour expliquer
exactement.
Un peu... Du départ du textile jusqu'à la fabrication finale du T-shirt,
exactement.
Différents acteurs. Là, tu m'as mentionné que vous avez demandé la permission à ces gens-là, vous avez dit que vous allez avoir votre nom sur le T-shirt. Donc, comment ça s'est passé?
Ça s'est très bien passé, en fait, parce que là, dans le fond, sur le chandail, il y a le nom Saraswati, Panchanan et Ashok. Saraswati qui est impliquée dans l'agriculture, Ashok dans la découpe des tissus et Panchanan dans l'organisation du chandail final. Et ils étaient quand même très contents parce que souvent, c'est des gens qui vont rester dans l'anonymat. Les gens ne savent pas qui ont fait leur vêtement. Et là, vraiment, bien, ils savaient qu'ils allaient pouvoir se présenter dans une vidéo et que des gens allaient pouvoir porter le chandail qui portait leur nom comme un badge d'honneur, comme quand on veut s'identifier à un camp, par exemple en période de guerre ou quoi que ce soit. Donc, je trouvais que c'était comme une belle façon de le mettre. Et puis, on peut voir dans la vidéo aussi leur témoignage par rapport au sentiment que ça leur apporte d'avoir
le
nom
fierté,
sur leur chandail. Ouais. Absolument. Puis, il y en a même un qui a dit, en fait, Tiacha, qui a dit que ça a été fait par notre manufacture, donc par nous aussi. Et puis, je pense qu'ils sont très contents de savoir que le chandail porte leur nom.
Qu'est-ce que tu voudrais que les consommateurs qui se procurent le chandail, badge d'honneur, c'est quoi qu'on veut, on pourrait dire, animer chez eux? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'attachement? C'est probablement la fierté de dire, j'encourage un T-shirt qui a permis à des gens de gagner leur vie convenablement dans des conditions éco-responsables pour l'environnement.
Absolument. De développer une connexion avec les gens qui font leur vêtement, puis aussi de développer le réflexe quand ils magasinent ailleurs, de se dire, ah, bien, je me demande qui a fait ce vêtement-là. Et puis, je pense pas que toutes les marques vont commencer à dire qu'ils font leur vêtement. C'est presque impossible. Puis des fois, il y a des marques qui ont la difficulté à retracer leur chaîne d'approvisionnement qui, des fois, peut être très, très complexe.
Mais ça peut les obliger à faire un changement.
Oui, absolument. Mais je pense que ça peut aussi éveiller la conscience sur le fait que, bon, bien, s'il y a un chandail qui coûte 5 $ c'est un bon prix pour le consommateur, mais il y a quelqu'un qui a payé pour ce prix-là. Puis c'est souvent la personne qui se retrouve à faire les chandails parce que ça ne va pas être la marque qui veut se procurer les chandails à un prix X. Ça ne va pas être le manufacturier qui veut quand même faire sa marge de profit. Ça va être les employés du manufacturier qui ont payé le prix, qui travaillent plus, qui ont un salaire moins élevé. Donc, je veux vraiment encourager les gens à demander aux marques à ce que les gens qui fassent leurs vêtements soient bien payés.
Donc, c'est tout ça que tu veux, comme changer, puis qu'on ait ce réflexe-là, de se poser les questions. Et aussi, j'imagine que quand tu as ton chandail, bien, tu y fais plus attention, puis tu y tiens. Parce que s'il y a toute cette histoire-là, puis tout le monde a mis autant d'efforts à le fabriquer, puis tu ne l'as pas payé juste 5 $ bien, tu vas peut-être t'en procurer un au lieu d'en avoir plein, puis ça ne sera pas de la mode jetable.
Absolument, absolument. Puis c'est aussi de dire que la durabilité, c'est pas juste l'environnement, les gens l'oublient. Tout l'aspect qui est social qui est très, très, très important. Puis c'est aussi, j'ai fait exprès particulièrement pour cette collection parce que je me suis dit, bon, OK, je m'en vais en Inde et là, le premier réflexe des gens, ça va être de dire, bon, ben même s'il y a toute cette belle histoire-là, sociale et environnementale, c'est sûr qu'elle a payé moins cher pour ses vêtements si elle est allée en Inde que si elle était allée ailleurs. Et j'ai même regardé qu'est-ce que ça m'aurait coûté de les faire faire, par exemple, au Canada, et ça aurait coûté moins cher. Ça coûtait plus cher de faire affaire avec Ojadi Collective en Inde parce qu'ils rémunèrent bien leurs personnes. Donc, pour cette collection-là spécifiquement, j'ai mis une partie, en fait, sur le site web, en dessous du chandail, on peut voir les coûts attribuables à quelles dépenses. Fait
que transparence sur toute la ligne.
Toute la ligne.
J'aime.
Merci.
Puis j'imagine que il y a raison aussi, c'est que là-bas, ils poussent, ils s'occupent du textile, ce qu'on ne fait pas ici. Ici, tu aurais eu la fabrication, mais je ne pense pas
exactement.
Qu'on est.
Exactement.
On n'a pas la matière première pour
absolument,
le textile.
Absolument, absolument.
Donc, moi, il y a quelque chose qui me vient en tête. Je pense que c'est un début d'une petite révolution pour comme changer les habitudes des gens, Stéphanie. Est-ce que tu as toujours. Tu as parlé souvent là, du côté social, ça t'interpelle. Est-ce que tu as toujours eu ça en toi, la fibre justement écologique et la fibre sociale?
Oui, mais je pense pas que je l'ai exprimé au cours de ma vie tant que ça. Je pense que j'ai été pas mal occupée quand j'étais jeune. En fait, je faisais beaucoup de gymnastique, donc je faisais 30 heures de gymnastique par semaine.
En même temps que
l'école à temps plein. Je faisais pas l'école sportive. Je voulais absolument pas. Je sais pas pourquoi mes parents me l'ont proposé, mais je voulais absolument pas aller dans une école pour les sports. Je voulais faire mon école à temps plein et ma gymnastique à temps plein. Et ensuite, j'ai été en droit, j'ai travaillé pour une grande firme. Ensuite, j'ai été dans un cabinet boutique où je faisais mon MBA en même temps. Donc, je pense pas que j'ai exprimé à ce niveau-là.
T'as pas eu le temps.
Mais cet aspect environnemental et social, je peux pas dire que quand
j'étais
enfant,
je plantais. Mais tu le sentais, tu avais le goût de...
Mais j'ai jamais aimé l'injustice sociale, mais est-ce que je faisais quelque chose pour contrer ça jusqu'à Ecova? Je pense pas. Je veux dire, je donnais à des organismes de charité, je préparais des sacs cadeaux pour les itinérants dans la rue, mais est-ce que j'ai développé un mouvement avant ce nom?
C'est là maintenant que on pourrait dire que tout est en ligne pour que ton projet entrepreneurial a pris forme.
Exactement.
Justement, tu as eu le centre Dobson là-dedans,
oui.
Puis avec ton MBA, mais on va s'en reparler parce que j'aimerais ça qu'on se prenne une petite pause musicale,
okay.
Qu'on va aller à ton choix musical qui a été le déni de l'évidence de mes aïeux. En quelques secondes, pourquoi ce choix? Puis quand, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous écouterez bien les paroles. Je pense que ça devient quand même évident, mais je
mais
te demande
c'est
à
ça,
toi.
J'ai envie de dire que si je dois dire en quelques secondes, mais parce que c'est évident, mais parce que tout simplement parce que c'est on parle d'une danse du déni de l'évidence où on sait ce qui s'en vient, on sait qu'on est presque en train de frapper un mur, si on peut dire qu'on n'est pas déjà dans le mur, puis que ça fait tellement peur, c'est tellement difficile de même imaginer qu'est-ce qui est en train de se passer qu'on décide plutôt de nier le tout puis de danser puis d'oublier le tout. Parce que c'est. On
ça
sait
nous
pas
fait
quoi
trop
faire.
Peur.
Ça nous fait trop peur, puis la tâche est trop grande, la tâche à accomplir, ou on ne sait même pas qu'est-ce que c'est.
Bon, on va aller écouter ça, on s'en reparle en retour.
10, 9, 8, 7, 6, 5. Je veux pas le savoir maintenant, tout le monde le sait, ce que personne veut voir maintenant.
Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant, tout le monde le sait, mais personne veut le voir pour l'instant.
Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant, tout le monde le sait, ce qu'il nous faudrait faire maintenant.
Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant, tout le monde le sait, ce qu'il nous faudrait faire, mais pour l'instant.
On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence.
Tu veux rien devoir maintenant, tout le monde sait qu'ils font pas leur devoir maintenant.
Je veux rien devoir, tu veux rien devoir maintenant, tout le monde remet son devoir à demain pour l'instant.
Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant, tout le monde sait qu'il faudra se lever maintenant.
Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant, tout le monde sait qu'il faudra se lever mais pour l'instant.
On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Quand tu danses à l'énergie que tu dépenses, pense au temps que tu prends pendant que les aiguilles avancent.
éthique tactique, politique économique, sans éthique tactique, politique économique, sans éthique. C'est une équipe apathique, on est une équipe apathique.
On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Mais pense quand tu danses à l'énergie que tu dépenses.
Pour se rendre à l'évidence.
Ouch! Tout le monde le sait qu'il faudra se lever, mais pour l'instant, on danse la danse du déni de l'évidence. Je vous laisse faire vos propres conclusions. Alors, oui, c'est ça. On a des réflexions à faire. On retourne à nos moutons, Stéphanie. Donc, tu es allée faire le Dobson. Juste avant de parler à la pause, de quitter pour la pause musicale, on parlait de ton MBA, mm-hmm. puis le centre Dobson. Est-ce que tu... La raison pourquoi tu es allée faire un MBA, tu avais toujours l'intention de faire un MBA, tu avais déjà ton projet entrepreneurial en tête?
J'avais toujours l'intention de faire un MBA et on dirait que je repoussais tout le temps un peu le moment où j'allais faire le saut entrepreneurial. Parce que je m'armais de plein de... Et là, ça n'a pas rapport tout de suite avec le MBA, mais même après le MBA, je me suis dit, ah, je vais faire... Ça, par contre, ça a été très utile, mais un certificat en mode durable à Parsons. Et après ça, là, il y a une firme de consultants qui m'a approchée. Je me suis dit, ah, mais je vais faire deux années en tant que consultante pour des compagnies en commerce pour m'aider à en apprendre plus sur le sujet pour ensuite être encore plus équipée. Et là, je me suis dit, non, il faut que j'arrête. Je le fasse. Mais le MBA, en fait, c'est parce que dès que je suis partie de la plus grande firme de droit, je voulais tout de suite partir de l'entreprise et effectivement, bien, il faut du financement pour ça. Et financer une marque de mode, c'est quand même difficile, demander un financement de marque de mode. Et mon père avait toujours offert de l'aide à ce niveau-là. Il avait dit, si tu veux partir quelque chose à un moment, je vais être là pour t'aider. Mais il ne voulait pas le faire de n'importe quelle façon. Et puis, il a dit, qu'est-ce que tu dis si... Tu fais un MBA avant pour limiter les erreurs que tu vas faire et ensuite on s'en reparle.
Tu es un homme sage.
Absolument, mais c'est un homme sage aussi que on dirait qu'il veut qu'on ait eu tout ce qu'il n'a pas eu. Donc lui, il a été à l'université pendant un certain moment en pharmacie et ensuite il a été renvoyé parce qu'il travaillait trop en entrepreneuriat. Donc,
finalement, il y avait plus, c'est ça. Il devait s'accomplir comme entrepreneur.
Lui, ouais. Ma mère, elle dit, elle le voyait, elle dit, il étudiait pas du tout. Là. Il était tout le temps en train de travailler pour son père, il aimait trop ça. Donc, c'est comme s'il veut qu'il ait tout ce qu'on n'a pas eu. Donc, lui parle plus ou moins anglais. Donc, il y a un été, je voulais vraiment améliorer mon anglais. Donc, j'ai été à Harvard pour prendre des cours là-bas en public speaking et en...
OK, mais là, je suis jalouse.
Writing, en oratoire et en écriture juridique. Donc, tout ce qu'on n'a pas eu, il veut qu'on l'ait. Et là, il dit, OK, ben le MBA aussi, tu sais. Et là, je pense aussi que c'est une façon pour lui de savoir est-ce que dans 3 ans, vraiment, elle va encore m'arriver avec la même idée? Est-ce qu'elle est très sérieuse? Et là, quand ça faisait 3 ans, ben, j'ai dit, allô?
Coucou!
On est prêts.
Love money, please.
Bon, OK, c'est là. Bon. C'est parfait. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui partent avec ça. Justement, il y a ce terme-là. Et puis, ben c'est comme ça que j'ai été en mesure de me partir en affaires.
Ben, avec ton père. Puis le Dobson, qu'est-ce qui t'a fait choisir McGill? Est-ce que c'est parce que c'est en anglais? Est-ce que tu connaissais le centre Dobson? Parce que je pense qu'ils t'ont donné beaucoup d'encadrement. Le centre Dobson reçoit toutes les éloges. Ils ont encore fait la liste du meilleur centre d'innovation pour les startups au monde. Ça vient de sortir. Fait qu'il faut quand même le saluer.
Absolument.
On est content d'avoir ça ici au Québec, à Montréal.
Absolument. Donc, en fait, j'ai seulement appliqué à une université pour faire mon MBA et c'était McGill. Et oui, j'étais très au courant du centre Dobson. Je trouve que c'est un environnement exceptionnel pour les futurs entrepreneurs qui veulent se faire encadrer. Puis, j'avais décidé McGill aussi parce qu'il y a des cours où on pouvait assister pour voir si on voulait aller à cette université-là. Et le cours où j'ai assisté, c'était un cours qui était donné par le professeur Elliot Lifson, qui avait également été avocat et qui avait eu toute une carrière dans le monde de la mode. Et je me suis dit, on ne trouve pas ça souvent. Et son invité, c'était la professeure Marie-Josée Lamotte, qui est la directrice du centre Dobson et qui, elle, a
qui
commencé
notre
à
micro,
nous parler.
Qu'on salue.
Oui, merci beaucoup. Et qui, elle, nous parlait, en fait, de tout ce qui était commerce du détail. Et puis, je voyais qu'elle avait été chez L'Oréal et tout. Et puis là, c'était comme... Je savais aussi qu'elle allait avoir l'école Ben Sanoun qui allait s'ouvrir.
L'école pour la mise en commerce. Là,
exactement, exactement. Donc là, je me suis dit, bien, il faut absolument que j'aille là. Et puis, je me suis dit, je vais trouver une façon de prendre des cours là-bas. Ça va devenir mes cours à option. Et il y a quelqu'un, une année au-dessus de moi, qui avait réussi à s'organiser un cursus où il y avait des cours à option qu'on pouvait prendre au MBA. Et puis, elle les avait pris en plus comme en santé. Et là, je me suis dit, dès que cette école-là va ouvrir... Et là, ça a été retardé d'un an à cause de la pandémie. Donc, c'était vraiment la dernière année de mon MBA.
C'est pour ça que tu étais la première étudiante
oui,
à avoir la spécialisation.
Oui, j'ai dit absolument que je puisse prendre des cours. Donc là, j'ai directement demandé à l'école. Et là-dedans, en fait, il y avait la professeure Marie-Josée Lamotte. J'ai demandé, est-ce que je peux assister à vos cours? Et là, quand j'ai eu aussi le oui... de la personne en charge à l'école de commerce. Là, ensuite, j'ai demandé à la personne en charge du MBA est-ce que je peux les faire comme cours à option? Et quand je les ai complétés, là, j'ai demandé en fait à ce que ce soit une spécialisation. Et puis, ils ont dit, bien, ça va être la première. J'ai dit, parfait.
OK, fait que c'est toi qui as permis la création de cette spécialisation-là.
Oui, mais j'ai été encouragée par la professeure Marie-Josée Lamotte. Elle a dit, bien, tant qu'à faire, demande un titre. J'ai dit, OK.
Ça, tu as le côté aussi avocat qui fonctionne bien. Dans des cas comme ça, on sait plaider nos causes.
Oui, oui.
Mais, donc, vraiment, tu as tout le bagage. Et puis là, tu es dans Ecova. Tu es au tout début de ton projet entrepreneurial. C'est quoi les plus grosses difficultés?
Les plus grosses difficultés, ben, en fait, je dirais que c'était au début, c'était de faire le saut. Comme j'expliquais tantôt,
oui,
je me trouvais toutes les excuses possibles pour ne pas faire le saut parce que je me suis dit, mon Dieu, j'aime trouver toutes les formations possibles que je peux faire. Je pense que j'aurais pu faire ça pendant 10 ans. Je pense que j'aurais pu faire toutes les maîtrises
ça
possibles.
Ça faisait peur.
Oui, ça me faisait peur de faire le saut. Donc, je pense que ça a été la plus grande difficulté. Et puis ensuite, ben, je pense que c'est des défis au quotidien. Des défis
Comme
au quotidien
peux-tu
à
nous en nommer quelques-uns?
Par exemple, de rentrer chez des détaillants. Et puis là, ben ça, c'est quelque chose que je ne peux pas divulguer. Puis je sais que cet épisode-là va aussi sortir plus tard, en février, quand ça aura sûrement été fait. Mais il y a une entente de confidentialité. Ce n'est pas complètement certain. Mais Ecova va peut-être rentrer dans un grand détaillant canadien au magasin du centre-ville de Montréal. Donc ça, ce serait vraiment
fait que temps pour parler, pour pouvoir avoir tes produits. Parce que là, ils ne sont que disponibles sur la boutique en ligne.
Et également sur le site Internet Wolf & Badger, très bientôt sur le panier bleu, également sur le Matchup, qui est la nouvelle initiative de la compagnie qui fait le Festival Mode et Design. Et je suis en pourparler aussi avec d'autres entreprises pour être en magasin.
OK, fait que c'est là-dessus que tu travailles en ce moment. Parce que tu as une ligne cachemire aussi recyclée.
Oui,
veux-tu nous en parler aussi? Parce que c'est intéressant. Et là, je ne sais pas si tes contacts que tu avais faits à Milan viennent en
pas
jeu.
Du tout.
OK.
Pas
parce
du
que
tout.
Tu t'approvisionnes en Italie aussi.
Oui, oui. Et ça a été l'élément le plus difficile, je dirais, c'est de trouver le manufacturier en Italie. Puis je voulais
pourquoi
faire
en Italie?
Des tests. En
à
fait,
part que c'est beau.
C'est une extrêmement bonne question parce que je pense que je serais passée à côté d'un aspect super important. Mais c'est qu'il y a une ville en Italie que les gens ne connaissent pas trop, puis ça s'appelle la ville de Prato. Et à Prato, en fait, depuis des centaines d'années, pour eux, c'était une ville pauvre et avoir accès à de nouveaux textiles, c'était quelque chose de très difficile, c'était dispendieux, c'était comme un grand luxe. Donc, ils ont commencé à recycler des textiles et au fil des années, ils se sont devenus des experts et
en recyclage de textiles.
Et la grande majorité de la ville est basée sur le recyclage du textile. Il y a des entreprises qui vont classer les vêtements qui sont reçus de partout à travers le monde. Ils vont les classer par type de tissu, d'autres entreprises qui vont les classer par couleur, d'autres entreprises qui sont spécialisées dans le déchiquetage des vêtements.
Donc, toute la ville est comme dans une chaîne d'approvisionnement.
Toute la ville est basée là-dessus. Là, mais c'est fantastique à voir. Puis ça m'a beaucoup inspirée. C'est là que je voulais aller parce que je voulais que ce soit du cachemire recyclé. Et là, il fallait que je trouve le manufacturier qui est prêt à faire confiance à une compagnie qui n'existe pas encore, qui n'a pas encore de site Internet. Qui vient du Canada, qu'il y a seulement une personne qui leur parle. Mais c'est aussi d'aller trouver...
Le grand sourire d'enthousiasme que tu me donnes, là, j'imagine que ça...
Bien, dans les courriels, on ne voit pas ce grand sourire d'enthousiasme.
C'est assez fait par courriel.
Puis là, bien, au début, on ne peut pas... Puis en plus, il y avait aussi l'autre aspect qui était d'aller trouver les manufacturiers, parce que les manufacturiers, c'est des gens qui ne s'affichent pas. Ils disent pas « venez ici ». Souvent, c'est de bouche à oreille, c'est à travers le monde de la mode. Donc, c'est difficile de les trouver, puis c'est... Quand on tape « manufacturier de cachemire » sur Google, tout ce qu'on va trouver en premier, c'est toutes les marques. Okay, les marques de cachemire.
Comment tu t'y es pris?
Et donc, comment je m'y suis prise? Bien, c'est au début, c'est avec Google, en me rendant « manufacturier de cachemire », là, j'allais super, super loin. Et là, à un moment, je me suis dit, bien, je vais l'écrire en italien. Parce que les manufacturiers de cachemire, sûrement qu'ils se disent pas, on va traduire ça en anglais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, je commence à faire mes recherches en italien. Et là, à partir de certaines pages, je commence à en trouver une coupe. Et là, je suis entrée en contact avec certains d'entre eux qui ont accepté. Ils m'ont envoyé des échantillons. Et il y en a un où je voyais que les échantillons étaient plus dispendieux, mais vraiment nettement d'une meilleure qualité. Et là, on a commencé à avoir des appels vidéo et ils ont accepté de faire affaire avec Ecovac, qui était une entreprise qui n'existait pas à ce moment-là. Et c'est aussi eux, en fait, ça a été un point quand même très déterminant parce que c'est eux qui ont parti un peu le pivot vers l'histoire. Donc, je voulais toujours qu'il y ait un aspect de storytelling, oui, comme tu as dit, mais je ne savais pas encore que ça allait être au niveau du vidéo aussi. Et là, ils m'ont dit, bon, ben vu que tu es une start-up, notre assurance ne va pas couvrir l'envoi de tous les accessoires que tu as commandés. Donc, tu dois les payer en avance et nous, on te les livre. Mais tu ne peux pas faire le contrôle de qualité en avance. Tu vas seulement pouvoir le faire quand tu l'as chez toi.
Comment tu travailles? Là, c'est quand même anxiogène. Je n'ai pas de contrôle de qualité à l'avance.
C'est ça. Ça peut être n'importe quoi, ouais, que je reçois. Ouais. J'en ai commandé beaucoup. Ouais. Je ne suis pas super à l'aise avec ça. Je comprends le côté de l'assurance. Là, mais là, je me suis dit, ben, je vais aller faire le contrôle de qualité sur place.
Et en même temps, je vais en profiter.
Et là, je me suis dit, ben, je vais en profiter pour filmer, puis oui, raconter l'histoire. Oui. Et j'ai trouvé une compagnie de vidéographes à Florence. À chaque fois que je fais un projet comme ça, je trouve, à chaque fois là, ça fait deux fois, mais je trouve une compagnie de vidéographes tout le temps, une compagnie locale. Donc, c'est avec eux que j'ai fait affaire. Et puis là, vraiment, tout le monde nous a ouvert les portes. C'était vraiment beau à voir l'endroit où ils recyclent le cachemire. L'endroit où ils font les bobines de cachemire, ils nous
encore
ont montré.
Il y a comme une fierté derrière ça, de absolument faire connaître leur savoir-faire.
Absolument, absolument. Mm-hmm. Ils nous montraient comment ça fonctionnait. On voyait même qu'il y avait des panneaux solaires qui fournissaient l'énergie pour faire les bobines de cachemire. Et on a même été jusqu'à l'atelier où ils faisaient les produits Ecova. Donc,
wow. Donc moi, j'aime bien le petit beanie, là. Oui. Il y a des pour un chapeau, absolument. Il y a le gris, il y a le noir. Fait que si je m'en commande un noir, là, je sais là, qu'il y a des artisans italiens. Puis
oui,
qui ont fait
c'est possible
ça,
de regarder
recyclé,
le vidéo.
Et je vais pouvoir l'expliquer à tout le monde.
65% recyclé et 35% vierge. Et mon but au départ, en fait, puisqu'on a eu beaucoup de conversations, et je voulais vraiment que ce soit 100% recyclé. Il m'a dit, écoute, si tu fais ça, 100% recyclé,
ça
va durer moins longtemps parce qu'il y a plus de tendance à ce que ça s'effiloche parce que les fibres d'un cachemire recyclé sont plus courtes. Donc, c'est important de les mélanger avec des fibres plus longues d'un cachemire vierge pour que ça dure plus longtemps. Donc, on n'est pas plus avancé si c'est des trucs qui durent moins longtemps. Et puis, l'autre aspect aussi, c'est que je voulais rendre que ce soit 100% cachemire parce que pour recycler le cachemire, il faut toujours que ce soit des pièces 100% cachemire. Donc, je ne pouvais pas le mélanger avec de la laine ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment que ça puisse avoir un cycle de vie complet où ça pouvait être recyclé en cachemire à nouveau. Mais on s'est assuré que ce soit durable, donc pour que ça dure de très, très longues années. Et puis, que ce soit d'une très, très grande qualité, que ce soit aussi très doux. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de tests avec eux. Mais c'est ça que ça a donné, c'est le résultat.
Il nous reste plus de temps, Stéphanie. J'arrive plus de te demander quels sont tes autres projets. Mais c'est déjà terminé. Je te demanderais des mots de sagesse en une minute, moins d'une minute, que tu veux partager à des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent ou tout n'importe qui est en mode inspiration.
OK. Je pense que de recevoir des noms comme réponse, souvent, c'est juste de demander à quelqu'un d'autre de cogner à une autre porte ou de voir ça comme un non pour le moment. Moi, je trouve que c'est toujours comme un défi. Je me dis non pour le moment, OK, on va voir dans un an qu'est-ce que ça va être la réponse.
J'adore ce conseil. C'est on ne l'a pas reçu souvent, je l'aime.
Je pense que ce serait un bon conseil, que ce serait de continuer à persévérer, puis que souvent les bonnes journées, on ne s'y attend pas du tout, mais il faut toujours se préparer en travaillant pour en avoir. Mais souvent, il y a des belles surprises qui arrivent, puis on ne s'attend pas du tout à ça.
Et de faire le saut.
Et de faire le saut, d'arrêter de trop se préparer, de le faire.
On trouve tes produits Ecova.co. Ecova.co.
Mm-hmm.
Alors, et on, ton hymne à la beauté du monde, on va se quitter sur ça. Isabelle Boulay, je sais que Diane Dufresne l'a chanté en premier. Toi, tu as choisi ça. C'est une autre chanson écologique. Deux mots pour ton choix?
Deux mots pour mon choix. C'est tout simplement que ça décrit à quel point le monde est beau, mais qu'il faut y faire attention quand même parce que c'est fragile.
Stéphanie Beaulieu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci infiniment.
À Intention Inc. C'était un plaisir de partager avec toi. Merci au Centre Dobson de McGill de nous avoir référé. Merci à Maurice à la mise en onde. Merci à Sophie Lissa à la technique. Et puis, merci à vous d'être à l'écoute d'Intention Inc. À chaque semaine, on est contente de vous faire découvrir des entrepreneurs qui sont animés par leur passion et qui partagent le secret de leur succès. On vous dit... Suivez-nous sur intentionring.ca et à jeudi prochain. Ciao!
Monde, chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux, ne tuons pas le bleu du jour, ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas. Dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue. Ne tuons pas la beauté du monde. Faisons de la terre un grand jardin.
Cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Traits d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis à l'émission Traits d'Union à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
Le balado Les solutions climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h.
CIBL 101.5, Montréal.
Vivre Montréal, Montréal.
Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.